France Bleu Soir. Laurent Petit-Guillaume.
Merci d'écouter France Bleu. France Bleu Soir, les photos d'Annie. C'est un petit livre passionnant qui permet de découvrir encore un peu plus une comédienne qui nous accompagne dans nos moments de cinéma, de télévision, de théâtre. Elle a incarné des personnages qui restent bien ancrés dans nos mémoires, évidemment. Souvent, on lui rappelle ses jambes sculpturales dévoilées dans une comédie au cinéma devenue culte. On lui rappelle sans doute très très souvent son rôle dans une des séries les plus populaires du petit écran. On en parlera bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est une de ses passions qu'elle nous dévoile, la photo Annie Dupéré. Rebonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Les photos d'Annie, alors c'est édité par Le Seuil. Moi je voulais savoir à quel moment vous décidez de nous offrir ce voyage dans votre collection de photos, quelques photos parmi beaucoup j'imagine, et du coup de nous faire partager des moments aussi intimes de votre vie.
Ah oui, parce que j'ai eu cette passion photographique au point de faire le laboratoire, de développer les pellicules pendant des nuits entières, pendant une vingtaine d'années, et elles étaient tranquillement dans un placard dans ma campagne, en Creuse, et je ne pensais absolument pas à les montrer, en fait, à personne. Et puis c'est un ami en Corrèze, avec lequel nous avons une grande complicité, comme ça, artistique, et qui, dans un petit village qui s'appelle, pour ne pas le nommer, Saint-Hilaire-Luc en Corrèze.
Parfait,
où il y a des irréductibles corréziens qui font vivre ce village, la culture de ce village d'une manière incroyable. Ils ont remonté une halle d'exposition qui était un ancien fournil à côté d'une église du XIIe siècle, très jolie, et ils voulaient faire l'inauguration. Et François Soustre, donc mon copain, a dit, enfin mon copain entendons-nous, c'est un ami, m'a dit, mais pourquoi, je sais que tu as fait de la photo, j'ai vu de certaines de tes photos, pourquoi tu les ressortirais pas pour faire une exposition, pour inaugurer ce lieu à Saint-Hilaire-Luc? Et puis on a fait ça, mon éditeur a vu mes photos, il m'a dit, mais dis donc, c'est toi qui as fait tout ça?
Ouais.
Ben je dis, ben oui. Alors on va faire un livre, alors j'ai dit oui, mais je vais expliquer un peu quand même, on va faire, voilà, un livre de 100 photos, 100 pages de texte. Ouais. Pour parler de cette chose qui était extraordinaire, qui était la photo argentique en noir et blanc.
C'est un livre passionnant parce que justement, on replonge dans cette fameuse période, vous vous souvenez sans doute, où on achetait des pellicules qu'on mettait dans un appareil. Voilà. Bref, on va en parler, on va feuilleter, on va commenter tout ça dans un instant avec Annie Dupéré.
Thank you.
Shocking Blue, Venus sur France Bleu.
France Bleu Soir.
Des caméras, des flashs, des shootings, elle connaît tout cela depuis longtemps. C'est le quotidien parfois d'une comédienne quand le cinéma, la télévision offrent de belles opportunités. Bref, quand on devient une vedette. Mais Annie Dupéré n'a pas toujours été que de ce côté-là des objectifs. Elle a depuis longtemps regardé le monde de l'autre côté, vous savez, dans le viseur d'un appareil photo. Et dans les photos d'Annie, éditées par Le Seuil, elle nous raconte son histoire avec la photo, puis son appareil photo. Alors, je vais vous poser une question toute simple. Hein. Ça démarre par une histoire de l'histoire d'un Leicaflex.
C'est un Leicaflex,
Leicaflex,
oui.
Qui atterrit dans vos mains.
Oui.
Et je crois que c'était un dimanche.
C'est un dimanche. Quelqu'un qui voulait faire des photos, un amateur de photos qui m'a dit, est-ce que je peux vous faire des portraits, etc. Je me suis dit, oui, d'accord, ok, allez. On fait une petite séance de photos. Et puis, il me dit, mais est-ce que je sais plus s'il me tutoyait, est-ce que vous voudriez pas faire quelques portraits de moi? Alors, j'ai dit, pourquoi pas? Et j'ai pris cet appareil. Et j'ai fait quelques photos de lui, et puis j'ai dit, il y a d'autres objectifs, là, je peux essayer. Et donc, j'ai essayé un objectif, puis deux, et voyant que je n'arrivais pas à quitter cet appareil, puisque c'était un monsieur qui travaillait dans un bureau, il m'a dit, mais moi, je suis au bureau toute la semaine, je m'en sers pas, gardez donc ce matériel jusqu'au week-end prochain. Et là, ça a été le coup de foudre intégral, voilà, et dès la semaine suivante, je crois que c'était une fortune pour moi à l'époque, j'ai foncé chez Leica.
Ah oui, pour acheter le même?
Acheter le même.
Bon, et vous êtes mis à prendre des photos.
Oui.
Il y a eu toute une histoire comme ça avec cet appareil et vous. Et la photo, elle fait partie de votre vie depuis, mais finalement, on le sait, depuis votre naissance, parce que votre papa, vous l'avez rencontré.
Mon papa était photographe.
Ben oui.
Ce qui est très curieux, c'est qu'à l'époque, j'étais encore dans le déni absolu du deuil et de la mort de mes parents. J'avais je crois déjà hérité des négatifs de mon père qui m'encombrait beaucoup, qui étaient dans deux cartons sous mon lit pour que surtout je les vois pas. Voilà, s'ils étaient là, et je voulais pas du tout mettre le nez là-dedans. Donc cette passion que j'ai eue, je l'ai pas raccordée à mon père tout de suite.
Ah bon ?
Non. Et c'était très gai, très léger, très ludique comme ça, très lourd aussi parce que mon beau sac photo dont j'ai mis une photo d'ailleurs à la fin du livre parce que.
Donc vous dites qu'il est très lourd.
Ah, il est toujours très lourd. Ça pesait 6-7 kilos quoi, avec les différents objectifs et tout et les pellicules. Dont, hein, pour ceux qui ont fait de la photo, j'avais acheté le 180, c'est-à-dire le téléobjectif de Leica, un 180 qui ouvre à 2.8, ça c'est pour les spécialistes.
Oh, c'est impressionnant hein, tout de suite, là, comme vous
oui,
dites.
Oui, parce que 2.8, c'est-à-dire qu'il a besoin de peu de lumière, alors que les téléobjectifs, généralement, en ont besoin quand même de beaucoup. Et c'est un objectif avec lequel j'ai fait presque tous les portraits de mes amis que j'ai mis dans le livre, de Terzieff notamment, effectivement. C'est un téléobjectif qui rend beau. Et on peut être très loin, donc les gens s'aperçoivent pas qu'on les photographie.
Mais quel rapport vous aviez avec la photo? Parce qu'à l'époque, vous commencez à être une vedette, comme on dit, on vous photographie.
Oui.
Vous aimiez ça, vous, être de l'autre côté?
Alors écoutez, je sais pas, mais je sais qu'il y a une concordance de choses. Il y a l'envie d'écrire mon premier roman, qui est né à cette période-là. De faire la photo, cette passion pour la photo. Et aussi, le retour au théâtre que j'avais un peu abandonné pendant quelques années pour être au cinéma parce que j'étais assez jolie fille donc et je m'étais rendu compte que si je continuais juste à faire du cinéma sans revenir au théâtre j'étais foutue.
Ouais.
Parce que les gens avec l'image étant très jolie n'attendent pas grand-chose de vous si on leur prouve pas qu'on est un peu plus que ça. Voilà.
Et donc
je m'étais rendu compte de ça et effectivement vers 23 ans, il y a eu ces trois choses en même temps. L'idée d'écrire mon premier roman, la photo et le théâtre. Et je crois que c'est pas un hasard, c'était une envie d'être plus créatif, ne pas seulement être utilisé comme image, mais moi de créer en écrivant,
et de partager,
en photographiant,
et de partager.
En partageant, en revenant sur scène, qui était mon vrai métier de base, voilà. Et je crois que c'est pas un hasard que tout ça s'est fait en même temps.
Vous avez gardé ce fameux sac là et c'est toujours le même?
Je l'ai toujours, on dirait celui d'un reporter de guerre, tellement il est absolument incroyablement râpé et tout. Alors je raconte dans ce livre, effectivement, j'ai quelques photos comme ça que j'ai prises à l'étranger. Et j'ai moi-même été surprise en écrivant le livre, en retrouvant mes négatifs, de me dire que quand même un sac qui faisait bien 6 ou 7 kilos, je l'ai emmené à New York, je l'ai emmené à Los Angeles, je l'ai emmené en Italie, je l'ai emmené partout pour quelquefois ne ramener qu'une pellicule.
Oui, ça c'est fou parce que
voir deux photos.
Oui, j'étais surpris. Vous dites à un moment donné, je suis à Hollywood dans une limousine.
Incroyable.
Alors, on se dit, bah, on va bien voir des photos du Los Angeles, de stars de cinéma qu'elle a croisées. Non, pas du tout.
Rien du tout.
Juste une photo d'une vitre, dans une voiture, tout
voilà,
ça. Il y a que celle-là qui est sortie.
Voilà, il y a que celle-là avec une étoile, l'endroit où on répétait le Gala de l'Union quand il a été à Los Angeles, et puis une Cadillac sur le trottoir et cette limousine à l'intérieur. Et pour moi, ça a vraiment synthétisé Los Angeles, quoi, où on peut aller nulle part sans voiture,
ouais.
Où il y a ce côté luxe omniprésent, le côté étoile, machin, tout ça. Et cette photo, je l'ai appelée l'Amérique. Parce que pour moi, il y a tout. Il y a l'Amérique, là, voilà.
Ah, New York, c'est ce petit oiseau sous la pluie,
oui,
au milieu des buildings qui est absolument émouvant.
Je devais me sentir peut-être un peu comme ça, oui, oui.
Ouais.
Un petit moineau à New York.
C'est pas très joyeux,
tout
ça.
Il n'y a que cette petite, pauvre petite bête, comme ça, recroquevillée, des buildings, que du béton autour. Je devais peut-être me sentir un peu comme ce moineau.
Et tout est en noir et blanc, mais franchement, c'est absolument magnifique. On va continuer à feuilleter ce livre de souvenirs aussi, hein, ce livre qui vous raconte ces photos que vous avez choisies, qui fixent pour toujours des visages qui nous sont familiers ou qui vous sont familiers. Il y a les intimes, la famille, les amis, parfois célèbres. On en parle dans un instant avec Annie Dupéré, votre invitée ce soir sur France Bleu. Et puis, vous allez vous préparer à jouer également. Vous avez l'habitude de gagner, hein, chaque soir, hein, des cadeaux. Ben, on vous offrira les photos d'Annie, éditées par Le Seuil, et la montre France Bleu dans un instant.
France Bleu.
Ensemble.
On chante, on rit, on rayonne.
France Bleu.
Ensemble sur France Bleu.
Jusqu'au 14 février sur francebleu.fr, envoyez-nous la photo de votre coin de campagne favori. Le meilleur cliché sera récompensé par un week-end à Paris, transport et hébergement compris pour deux personnes, à l'occasion du Salon de l'Agriculture 2019. À vos appareils photos et rendez-vous sur francebleu.fr pour découvrir toutes les photos en ligne.
France Bleu, la radio qui vous ressemble.
On est une famille, vraiment.
Sur votre France Bleu.
Le plaisir, faire sourire.
Au micro, au standard, en régie.
C'est du génial, quoi.
Le soutien vers les auditeurs.
On est ensemble.
On est comme vous, mais dans votre radio.
France Bleu, c'est le partage.
France Bleu, on est bien ensemble.
France Bleu Soir, Laurent Petit-Guillaume.
Elle est votre invitée ce soir sur France Bleu Soir, la comédienne Annie Dupéré pour un nouveau livre, son 15e, eh oui déjà, Les photos d'Annie, éditeur Le Seuil, le récit d'une passion, la photo qui dure depuis longtemps, longtemps, le récit d'une vie et puis quelques photos de souvenirs, de paysages, d'amis, de chats, normal. D'ailleurs, ça n'étonnera personne de voir que la première photo que vous proposez, bah, c'est Titi dans son panier, hein, ça y a pas de souci, on connaît. Ben c'est marrant parce que quand on ouvre ce livre, on a tout de suite envie de voir les photos. Alors moi, j'y suis allé comme tout le monde, hein, bien sûr. Et les deux premières, ce sont effectivement le chat Titi et le portrait de votre amie, la comédienne Marie Dubois. Magnifique comédienne.
Voilà. En fait, on a choisi ces deux photos-là avec l'excellent graphiste avec lequel j'ai fabriqué ce livre, Jean-Luc Simonin, je le cite. On s'est vraiment très bien entendu. Et on a choisi ces deux photos-là, c'était pour illustrer le 180, le fameux téléobjectif, qui avait donc, quand on photographiait avec lui, une profondeur de champ, je sais pas si ça sonne quelque chose pour les jeunes, mais très réduite. Et donc, c'est vrai que mon chat dans son panier qui sort sa patte, la patte est floue, le chat est net. Et Marie Dubois, je lui ai fait un portrait où elle a un œil net et l'autre flou. Et c'était pour illustrer le 180, voilà.
Et là, vous vous entraîniez sur vos copines ou vos copains comédiens? Alors, leur faisiez des books, comme on dit?
Oui, à l'époque, ça, j'ai pas mis ces photos-là. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de jeunes comédiens. À l'époque, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas de numérique. Il y avait donc même pas de casting. On envoyait au metteur en scène, les agents envoyaient au metteur en scène qui cherchait un rôle, des photos d'acteurs. Voilà. Des photos d'acteurs pour leur montrer leur visage. Donc, il s'agissait de faire des photos qui donnent plusieurs axes de sa personnalité, quelques-unes en faisant l'imbécile, d'autres plus graves, d'autres romantiques. Fallait un petit panel comme ça. Et puis, j'avais un certain nombre de copains qui s'étaient aperçus que, et d'une, je faisais pas de trop mauvaises photos, et que de deux, je les faisais gratuitement.
Ça, c'est pratique aussi quand on est comédien, surtout débutant, on est bien d'accord.
Donc voilà, je faisais quelques books comme ça des copains. J'ai eu pas mal de photos d'amis dans ce qui s'appelait l'annuaire du cinéma ou l'annuaire du spectacle à l'époque. Je sais pas s'il existe toujours.
Oh, ça doit être sur Internet maintenant.
Mais j'ai pas mis ça dans le livre. Ce que j'aimais, c'est les photos un peu volées comme ça, de moments intimes, de portraits intérieurs. C'est ça que j'appelais les portraits intérieurs comme ça. D'ailleurs, je suis assez fière parce que J'avais fait un portrait notamment de Laurent Terzieff,
ah oui,
que j'aime beaucoup, beaucoup. Et Laurent, 3 mois avant de mourir, au Molière, m'avait réclamé ce portrait. M'avait réclamé ce portrait en me disant qu'il s'était jamais trouvé si beau de sa vie. Et j'ai pas eu le temps de lui donner parce qu'il est décédé peu de temps après. 20 ans après, il se rappelait de cette photo. Il m'a dit, je m'étais jamais trouvé aussi beau, j'aimerais la revoir. Et en fait, sa sœur vient d'écrire un livre sur la famille Terzieff. Et a choisi cette photo.
Ah, elle est très belle.
En quelque sorte, Laurent a presque choisi lui-même, en me la demandant, pour le livre qui va sortir à l'Harmattan sur la famille Terzieff. Donc je suis très honorée.
Et elle est dans le livre, je tiens à signaler. Alors il y a aussi votre vie, votre histoire, votre parcours qu'on retrouve. On vous reparlait encore une fois de votre papa, Lucien Legraff, photographe inconnu. Mais enfin, il avait quand même eu un prix. Prix. Et vous disiez tout à l'heure que vous aviez caché les photos de papa. Elles étaient sous le lit. Vous étiez dans la période de déni. Quand est-ce que vous décidez d'ouvrir cette boîte ?
Alors, je l'ai pas vraiment décidé. C'est vrai que j'ai pondu un petit chapitre dans ce livre que j'ai appelé, je crois, du possible pouvoir des esprits sur un objet, parce que effectivement, j'avais un agrandisseur. Ça n'a pas beaucoup parlé aux gens qui n'ont pas fait de la photo. Il fallait projeter le négatif sur un papier pour l'impressionner. Donc ce négatif, il fallait faire le point très soigneusement pour que, évidemment, la photo soit le plus nette possible. Et normalement, une fois qu'on l'avait réglé, il restait comme ça. Et tout à coup, cette petite machine qui avait marché parfaitement, du jour au lendemain quasiment, s'est mis à perdre le point. C'est-à-dire qu'entre chaque tirage, et justement pour mes copains acteurs, je leur faisais parfois à suivre une quinzaine de tirages pour qu'ils les distribuent à des metteurs en scène ou à leurs agents. Et ils se mettaient à perdre le point entre chaque tirage. C'était très enquiquinant. Et j'ai pensé effectivement, mais alors bon, je vais acheter, c'est pas, puisqu'il se met à ne plus me faire le point, comme ça je vais acheter un bel agrandisseur. Et là j'ai pensé, idée géniale, et pourquoi pas un multiformat qui me permettrait de peut-être développer les négatifs de mon père que j'ai jamais vus. Et la question s'est posée, mais au fait, de quel format sont-ils ?
Ah oui, alors il faut aller chercher les photos.
Et là j'ai tiré le carton, je vais dans le tiroir, et j'ai regardé les photos, j'ai commencé à regarder les négatifs à travers et c'était fini. C'est-à-dire j'avais ouvert la boîte de Pandore, j'avais mis le nez dedans. Je crois que dès ce moment-là, j'ai arrêté, moi, de faire de la photo.
Ah, carrément ?
Oui, oui. Parce que la photo est devenue... J'ai senti tout de suite que, en fait, un travail de plusieurs années m'attendait. Je savais pas que ça prendrait 4-5 ans. En fait, ça a pris 5 ans, l'écriture du voile noir sur les photos de mon père. Il fallait déjà les découvrir, réagir à ça, laisser grandir les choses, les revoir, bien les contempler. Et la photo est devenue pour moi quelque chose de grave. Puisque je n'avais aucun souvenir d'enfance, j'ai eu une amnésie après le fait d'avoir trouvé mes parents morts, qui était quand même un gros traumatisme, une amnésie totale de l'enfance. Et par contre, mon père photographe avait photographié des preuves que cette enfance existait. Donc, j'avais déjà été frappé par un mot d'un auteur qui avait écrit sur la photo La Chambre Claire, je ne me rappelle plus le nom de l'auteur là tout à coup, qui avait écrit « Faire une photo, c'est capter la mort en marche ». Ce qui n'est pas gay comme propos.
Non, pas vraiment, oui.
Mais
ben oui.
Effectivement, quand vous fixez quelqu'un sur une pellicule, eh bien, l'instant d'après, déjà, c'est passé, c'est fini. Et un jour viendra, si c'est une photo qu'on conserve chez soi, un jour viendra où, effectivement, vous vous dites, tiens, il y a des gens qui regarderont cette photo, je ne serai plus là. Où il y aura eu un drame et on regardera. Et d'où c'est effectivement le sens du fait de fixer un instant est devenu pour moi d'une gravité flagrante en découvrant les photos de mon père.
Mais quand vous êtes mis, comme vous êtes jusqu'au boutiste, ok, vous avez fait des photos, mais vous êtes mis aussi à apprendre à les développer. Vous avez transformé votre salle de bain en truc chimique.
Ah oui, je faisais le laboratoire, je développais même les pellicules, ce qui était très risqué.
Et une photo, pour qu'elle apparaisse, il faut un révélateur.
Bien sûr.
Et un révélateur, c'est ce qui vous est arrivé aussi.
Absolument.
Lorsque vous avez regardé des photos qui avaient été passées par révélateur.
Oui.
C'est le mot révélateur qu'il faut...
Bien sûr, c'est le révélateur.
Le révélateur de beaucoup de choses aussi qui vous suit.
Voilà, donc si vous voulez, c'est vrai qu'il y a eu une césure là. Alors j'ai continué à faire de la photo. J'ai continué à faire de la photo avec un peu de mal, maintenant que c'était devenu un peu, le sens en était devenu grave un peu, et même un peu dramatique. Et par contre, je me suis sentie obligée de continuer et j'ai pris la couleur. Là, par contre, la couleur. Je suis passée du côté de la couleur. Je me suis fait un devoir qui est redevenu un plaisir. Hein. Mais au début, j'avais du mal, sachant que voilà, les photos de mon père montraient tout ce qui n'était plus.
Et on aurait
J'ai voulu garder une trace de l'enfance de mes enfants. Leur donner ça.
Alors, les photos dans les photos d'Annie, c'est du noir et blanc. Et c'est très très beau. Allez, on va parler d'autre chose maintenant pour vous faire gagner justement ce très joli livre, Les photos d'Annie, d'Annie Dupéret et la montre France Bleu. Une petite question extrêmement facile. Bien sûr, c'est une question sur la série Une famille formidable que vous regardez depuis 1992. Peut-être vous qui nous écoutez. Alors, question très simple. Dans Une famille formidable, quel est le prénom du personnage interprété par Annie Dupéret? Ah, le prénom, juste le prénom. 0800.
Oh, c'est dur.
Oh, mais non, ça commence par un C. Bon, bah, on verra. 0810, 055, 056. Bon, alors, ça commence par un C, ça pourrait être Corinne ou Catherine. Allez, choisissez. 0810, 055, 056. À tout de suite. France Bleu.
N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie? Parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai.
N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenirs comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols.
Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé, oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être
heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais.
Angèle, tout oublié sur France Bleu.
France Bleu Soir. France Bleu Soir.
Bonsoir Valérie.
Bonsoir.
Bonsoir et bienvenue. Vous êtes en Lozère, à Saint-Étienne.
À l'Éternel. Vallée française.
Oh, bah, oh, c'est très joli ça. Saint-Étienne, Vallée française. Waouh. Alors, on vous a posé une question il y a quelques instants. Vous avez sans doute vous aussi regardé quelques épisodes d'Une famille formidable sur TF.
Oui,
c'est
oui,
vrai.
Oui.
Bon, alors, j'avais pas besoin de proposer des prénoms. Vous le connaissiez.
Non, c'est Catherine.
Ben oui, c'est Catherine. Catherine.
Oh, c'était difficile, hein.
Non, vous non, êtes. Mais elle est formidable. Vraiment, la série porte bien son nom parce que elle est, elle dégage, je sais pas, beaucoup d'amour, beaucoup de. Et c'est une très très jolie dame.
C'est marrant comme on a l'impression avec cette série presque de faire pas de partie de cette famille depuis tant d'années. Ça vous a fait ça vous aussi?
Exactement, exactement.
Bon bah je crois que malheureusement ça va pas continuer longtemps.
De
chien.
Bon, bah écoutez, on va vous offrir ce joli livre de photos, les photos d'Annie, édité par Le Seuil.
Je suis hyper heureuse.
Je pense qu'elle va même vous la dédicacer.
Mais oui, bien sûr.
Vous le dédicacez. Je pourrais demander une petite faveur.
Oui. Bah, on va essayer, allez-y.
Ben, mon surnom, c'est Valda.
Très bien.
Valérie Valda, donc.
Ouais, très bien. Ok.
Ah, c'est génial. Bon. Je suis hyper heureuse.
Eh ben, on va vous envoyer ça, plus la montre France Bleu.
Ah ben c'est génial, merci, mille bisous.
Merci, bonne soirée Valérie.
Et bonne continuation.
Merci, ne raccrochez pas. Hein. On le disait à l'instant, une famille formidable, voilà, depuis 1992 quand même, cette série.
Oui,
s'arrête là, pas pour votre volonté, on en a déjà, je crois, je vous en ai déjà parlé.
Un petit peu une
fin qui finit, comme on dit vulgairement, en autre boudin, un truc comme ça.
Non, c'est...
Tu peux quand même,
mais
c'est dommage.
Je crois qu'il faut... Ben, notre créateur est mort, surtout.
Oui, il y a
voilà,
ça,
mais... c'est ça, Joël. Et puis voilà. Bon, c'est vrai que on allait trahir un peu tout ce qu'on avait fait de bien si on s'obligeait comme ça tous les ans à pondre absolument 6 épisodes alors qu'on a déjà traité tellement de sujets et tellement de choses.
Ouais.
Bon, puis ce divorce là, moi-même, je l'ai pas très bien digéré. Alors voilà.
Bon, allez, on va oublier. Passons au présent, passons à l'avenir. De toute façon, c'est vrai. Aujourd'hui, on vit dans un. C'est un petit peu comme la photo. Aujourd'hui, la photo, c'est l'immédiateté, c'est tout de suite avoir le résultat. Mais c'est un peu ça aussi. La télévision, vous savez,
oui,
c'est
bien
comme
sûr,
ça.
Bien sûr.
Les photos d'Annie. Alors, c'est un livre, je le rappelle, c'est le récit hein, d'Annie Dupéré, photographe. Ça reste un objet. Ça reste un objet. On peut justement arrêter le temps avec ce genre d'appareil, mais il y a un côté charnel finalement avec l'appareil photo.
Ah, oui.
Il y a quelque chose de vivant. Regardez, je me disais, c'est la vie, parce que par exemple, quand on développe une photo, vous savez bien ce que c'est, vous qui développez ou qui développiez. Vous êtes dans le rouge, c'est la vie,
c'est la passion.
Oui, il y a ce côté.
C'est la passion, il y a quelque chose comme ça. Mais je crois qu'effectivement, les gens qui ont jamais fait ça ne se doutent pas qu'est-ce que c'était d'attendre le résultat de la pellicule, d'essayer déjà de voir un petit peu au travers, est-ce qu'il y en a une bonne dedans, on sait pas. Et puis tout à coup, d'avoir ce papier qui fait apparaître l'image au révélateur. Et ça, c'était absolument magique, magique.
Et vous aviez l'impression d'avoir un rapport presque physique avec l'appareil comme une prolongement de
votre
bras,
non, pas vraiment. L'appareil, non, c'était plutôt. C'est drôle, j'ai inventé un mot dernièrement. On m'a dit, mais alors, pour saisir une photo, par exemple, comme Laurent Terzieff ou Adjani, qui ne se doutait pas du tout que je les photographiais comme ça, il y a tout à coup, on capte, ou Caroline Cellier, effectivement, alors qu'elle lève le bras qui est flou,
elle est
sublime.
Magnifique.
Heureusement, j'ai fait le point. C'est ça où on se dit, bon, il y a une technique quand même, j'ai réussi à avoir le point pour une seule photo que j'ai chopée comme ça. Et je dis, c'est à mi-chemin, c'est 50% d'affût, comme le chasseur, et de hasard.
Bah, shooting, hein.
Voilà, hasard. Donc, c'est un affusard.
J'aime beaucoup, un affusard. Bon, eh ben, on va continuer à parler et de ce livre et de vos photos. Il y a un très joli travail de mémoire sur le quartier Montparnasse à Paris, que vous avez vu se transformer, on va en parler dans un instant.
France Bleu.
Ensemble.
On s'amuse.
Ensemble.
On se cultive.
France Bleu.
Ensemble sur France Bleu. Le top. Le top France Bleu.
Salut, à l'occasion du dernier concert des Enfoirés ce soir à l'Arena de Bordeaux, je vous propose dans le top France Bleu d'évoquer justement vos plus beaux spectacles, les plus beaux shows que vous avez vus dans votre région. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 20h.
Entrez dans le top France Bleu d'Éric Bastien ce soir, 20h, 22h.
Vous avez une nouvelle invitation.
Rejoignez la famille France Bleu sur Facebook.
Pour commenter.
Pour jouer.
Pour aimer.
Pour partager.
Déjà plus d'un million de fans. Il ne manque plus que vous. France Bleu vous attend sur sa page Facebook. Soyons bien ensemble.
Bien ensemble.
Un truc débile qui m'endort.
province ressemble un peu à un dimanche. Sur le siège avant, le chauffeur buvait de la bière en regardant l'heure. Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis, à la place du mort, un chien loup peut jeter un regard un peu fou. Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Costume un peu élimé aux manches. J'ai le droit de me taire et fumer en gardant mes menottes au poignet. Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Pour une fois, les flics ont gagné. Vers chez toi, je ne sur la route de Memphis, sur la route de Memphis, sur la route de Memphis, sur la route de Memphis.
Eddie Mitchell sur la route de Memphis sur France Bleu.
France Bleu Soir, Laurent Petit-Guillaume.
Allez, on va maintenant prendre la route de Bordeaux. Suivez-nous, Annie, restez avec nous, bien évidemment. Suivez-nous, on va prendre la route de Bordeaux où ce soir aura lieu le dernier concert des Enfoirés. Arnold Derek, bonsoir et bienvenue.
Ah oui, oui, bonsoir à vous, bonsoir Annie Dupéret, bonsoir Laurent Petit-Guillaume.
Oui, c'est mon nom, bonsoir Arnold Derek. Vous êtes donc, comme d'habitude, dans les coulisses du concert des Enfoirés, le dernier de la série, hein, c'est ça?
Oui, absolument, Laurent Petit-Guillaume. Enfin, je me balade. Hein,
appelez-moi Laurent, ça ira plus vite.
Hein. Un coup, je suis... Je fais ce que je veux. Un coup, je suis au premier rang.
Oui.
Je suis un peu partout, mais effectivement, je vous fais vivre cet événement depuis les coulisses. Il y a des grosses surprises là hein, qui se préparent pour ce soir. Vous l'avez dit, Laurent, c'est le dernier concert des Enfoirés ici à Bordeaux et une ambiance absolument exceptionnelle. La pression monte petit à petit. Alors, je vous cache pas qu'il y a un peu de fatigue hein, quand même, parce que c'est vrai que les artistes ont beaucoup donné d'eux-mêmes, les équipes techniques évidemment, sans parler des bénévoles. Tout le monde s'est donné à 10 000% et un petit peu de fatigue, mais il y a une motivation qui est intacte. Là, on s'apprête à passer au dernier concert avec de belles surprises, vraiment. Vous les verrez hein, évidemment ces surprises lors de la diffusion de ce concert sur TF1 en simultané sur France Bleu. Ce sera pour le début du mois de mars. Et en tout cas, vraiment, ne loupez pas cet événement parce que plein de surprises absolument énormes. Je ne peux rien vous dire.
Vous pouvez rien dire.
Je suis désolé. Rien.
Je vous entends vous parler tout doucement, comme si vous étiez dans un endroit où il faut vraiment pas faire de bruit, comme si ça allait commencer et que voilà quoi. Ah bah oui, il y a un écho en plus.
Ah non, mais vous savez alors ça n'a rien à voir. Ça c'est dû à ma personnalité discrète et délicate.
Qu'on retrouvera avec plaisir mercredi soir. Merci Arnold.
Je voulais juste saluer Annie Dupéret en tant que... voisin, hein, parce que nous habitons dans la même zone parisienne, voilà.
Ah bah bonjour.
Adresser tous mes messages de sympathie à France Bleu Isère également. Bonjour.
Merci Arnold. Rendez-vous mercredi soir à 19h sur France Bleu. Merci beaucoup Arnold pour ce direct de Bordeaux avec ce concert des Enfoirés. Alors si les voisins d'Annie Dupéret, alors il me semble que vous êtes toujours dans un quartier parisien qu'on peut localiser Jean Montparnasse.
Voilà, c'est ça.
Hein, c'est ça.
C'est ça.
Et pourquoi je dis ça? Ben parce que dans ce livre magnifique de photos, de témoignages, d'histoires, les photos d'Annie, hein, il y a des photos exceptionnelles de ce quartier Montparnasse, un quartier parisien qui a beaucoup changé. Alors tout le monde connaît la tour Montparnasse.
Oui, bien sûr. Vous... Elle était déjà construite, d'ailleurs, je pense. Je pense qu'elle était déjà construite ou en cours de construction. Quand j'ai débarqué dans ce quartier, je suis arrivée au moment où, effectivement, il y avait toute une partie, quand même, 1000 hectares, je crois que c'était incroyable. Je sais plus. Derrière le Montparnasse Sud, c'est-à-dire tout ce qui est derrière la gare Montparnasse, a été plus ou moins détruit pour faire tous les grands immeubles, les Sheraton, tous les ensembles qu'il y a, la place de Catalogne et tout ça. Et je suis arrivée au moment où, effectivement, les maisons allaient être démolies, où on chassait les gens de chez eux pour détruire leurs maisons, pour faire des choses modernes à la place, ce qui n'allait pas sans heurts et sans grand malheur.
Oui, parce qu'ils partaient parfois contraints à forcer.
Et je sais pas pourquoi, ça m'a serré le cœur, ça m'a vraiment touché. Je crois que pour le coup, avec mon appareil, j'ai fait œuvre de reporter, quelque part, en photographiant, j'avais envie de ce que j'appelle des portraits de condamnés. De photographier tous les immeubles qui allaient être détruits. Alors, je mets pas tout là, dans ce livre-là, mais je me suis dit, je vais faire un chapitre là-dessus, parce qu'effectivement, on parlait de photographier ce qui ne sera plus, et pour le coup, ça l'était vraiment au sens propre, puisque ces immeubles, dont certains étaient très beaux, allaient être démolis pour faire tout le sud de derrière Montparnasse.
De ce quartier aujourd'hui beaucoup plus moderne, évidemment, plus moderne, mais ça c'est les choses évidemment ne restent pas.
Oui, c'est vrai qu'il y avait des photos qui me bouleversent parce qu'il y avait des immeubles déjà murés en partie où on voyait du linge qui séchait à une fenêtre. Donc c'est des gens qui s'accrochaient à leur logement, qui voulaient pas partir et tout. Et ça fend le cœur.
Il y a un couple également qu'on voit se pencher à sa fenêtre avec un regard un peu désespéré ou inquiet peut-être de vous voir.
Oui, je ne l'avais pas vu en photographiant. Je photographiais ce vieil immeuble qui était déjà prêt à être démoli et le Sheraton tout neuf dans le fond. Et ce n'est qu'en développant la photo que j'ai vu que deux personnes passaient une tête inquiète par une fenêtre. Ils m'ont vu photographier et donc ils étaient repérés.
Vous avez beaucoup plus de photos que ça, évidemment. Est-ce que ça pourrait donner, si ça marche, un second tome?
Un second tome, je sais pas,
bah,
je sais
pas. Mais je fais une expo
en ce moment.
Ah, dites-le alors.
En ce moment, il y avait une exposition qui se termine aujourd'hui d'ailleurs à Boulogne. Je vais exposer à Bruxelles.
Très bien.
À partir du 8 février, je serai à la galerie librairie chapitre 12 à Bruxelles. Après, ça sera sans doute Lausanne. Après, Aix-en-Provence en mai.
Très bien.
Et tout l'été, une grande expo aux promenades photographiques de Vendôme sur mon père, moi. Et ma sœur, qui avait hérité aussi d'un don photographique.
Et je tiens à le dire, il y a des photos de votre sœur, comment son prénom déjà, Pitou, qui sont vraiment charmantes. Ouais. Merci beaucoup Annie Dupéré. Ce livre est émouvant, passionnant, ce sont effectivement de vrais témoignages. Et puis on y retrouve des visages sympathiques. Et puis une Annie Dupéré sur la couverture, les jambes écartées. Les grandes jambes écartées d'Annie Dupéré. Comme ce soir d'ailleurs en studio. Enfin ça reste entre nous. Merci Annie Dupéré.
Merci à vous.
Je vous présente Éric Bastien.
Bonjour.
Bonjour Éric.
Bonjour Laurent, bonjour Annie.
Qui prend la suite.
Exactement.
Le top de quoi?
Oui, c'est le top France Bleu ce soir de 20h à 22h avec un sujet différent chaque soir. Ce soir on va s'intéresser à tous les spectacles qui vous ont marqué tout au long de votre vie. Que ce soit un concert, que ce soit une pièce de théâtre, que ce soit aussi les shows que l'on découvre un peu partout en France. Je pense à la Ciné-Scénie du Puy du Fou. Quels sont les spectacles qui vous ont marqué? Où est-ce que c'était? À quel endroit? Quels souvenirs vous ont gardé? 0810 055 056. Vous nous appelez dès à présent. Si je vais parler théâtre, moi je dirais la Folle de Chaillot, parce que j'ai vu Annie à la Folle de Chaillot il y a quelques années.
Quel bel enchaînement.
Avec Dominique Pinon.
Mais que c'était formidable.
C'était très bien. C'était très bien. Voilà, ça c'est mon coup de cœur. Après,
à tout de suite, Éric. À tout de suite. Au revoir, Annie.
Au revoir.